d'économie.
Ce soir, votre magazine se penche sur le dossier du code minier de la RDC qui ne sera plus modifié. Selon les ministres des Mines, un code plus onéreux n'attirerait pas les investisseurs dans ce contexte de marché déjà en difficulté. De leur côté, les ONG nationales et internationales n'approuvent pas cette décision. Global Witness et CERN estiment que tirer une croix sous les efforts de réforme de cette loi représente une opportunité manquée de grande ampleur pour la RDC. Nous parlerons aussi d'une nouvelle maladie des maniocs qui ravage sérieusement des champs de paysans du Sud Kivu. Les acteurs du domaine agricole annoncent un risque imminent de la baisse de la production à 100% du manioc. Voilà tout pour le sommaire. Bonsoir à tous. Le gouvernement de la RDC vient de renoncer à son projet de révision du code minier en vigueur. Le ministre de Mines, Martin Kabwelulu, a fait cette déclaration hier au forum Mining Indaba en Afrique du Sud. De la même manière que la décision de réviser ou non certaines clauses du code minier a divisé l'opinion, autant l'est la renonciation annoncée par les ministres. Daniel Tambizoni pour plus de détails.
Il convient de noter à ce jour qu'au regard du contexte général du secteur minier, le gouvernement a opté de maintenir l'application du code minier et ses mesures d'application actuellement en vigueur pour régir le secteur minier en République démocratique du Congo. Cette déclaration faite hier par Martin Kabwelulu, ministre de Mines, lui qui a encouragé les opérateurs miniers à maintenir leurs activités en dépit de la situation internationale relative à la baisse des cours des matières premières. Il les a aussi rassurés de l'accompagnement du gouvernement en cette période de dure épreuve et les a invités par ailleurs à ne pas exploiter cette situation pour verser dans le manque de transparence, manque de gouvernance et manque de civisme fiscal. Cette décision a réjoui la Chambre des Mines qui estime que l'assurance donnée à Indaba par le ministre des Mines a apporté la clarté et la stabilité. Maintenant que le nuage de l'incertitude se dissipe, la RDC peut redevenir une destination compétitive pour les investissements miniers, le tout pour le profit aussi bien du gouvernement que du secteur minier, a dit Simon Tumawaku, président de la Chambre des Mines de la RDC. Il est bon de rappeler ici que le code minier de la RDC était promulgué en 2002. En 2012, soit 10 ans après, le gouvernement avait estimé que ce code n'était pas avantageux pour le trésor public et méritait de subir la révision de certaines clauses. La révision elle-même était prévue par les dispositions du code en question. Depuis très longtemps, les avis sont restés partagés à ce sujet. Les opérateurs miniers n'en voulaient pas, tandis que certaines organisations de la société civile soutenaient le gouvernement à modifier ce code qui appauvrissait le pays au profit des opérateurs miniers. Le gouvernement vient de maintenir l'application de l'actuel code minier. Mais les ONG n'entendent pas la chose de cette oreille.
En réaction, certaines ONG n'approuvent pas du tout cette décision. C'est le cas de CERN, entendez la commission épiscopale pour les ressources naturelles. Réagissant à ces revirements du gouvernement, les présidents de cette commission estiment qu'il n'y a aucune raison qui justifie ces changements, quand bien même il y aurait chute des matières premières à l'international. Ils pensent que le gouvernement peut toujours revoir sa décision. Écoutons Henri Mouya, président de la commission épiscopale pour les ressources naturelles, j'ai au téléphone.
Les raisons qui ont poussé le gouvernement à initier le processus de révision du code minier n'ont pas encore changé. Donc, à notre avis, ce ne serait pas le moment parce que on se rappelle que le code minier de 2002 a été adopté dans un moment où le pays était en difficulté. On visait d'attirer les investisseurs. Et 10 ans après, on s'est rendu compte que les investisseurs ont gagné plus que le pays et qu'il était temps qu'on puisse réviser le code pour certaines dispositions. Quand bien même les gens disent que le code de 2002 n'était pas connu parce qu'il n'a pas été suffisamment vulgarisé et qu'il n'a pas été suffisamment appliqué, et c'est là qu'on soulève les questions de corruption et tout. Mais il y avait aussi des lacunes, notamment en ce qui concerne la nouvelle constitution qui a institué les ministres provinciaux des mines, qui n'existe pas. Il y a eu toutes les questions en rapport avec l'environnement, avec le développement local, en rapport avec la fiscalité, pour lesquelles on a eu des séances de travail tripartites, gouvernement, entreprises et sociétés civiles. Je ne sais pas si c'est simplement parce que le coût des métaux a baissé au niveau international qu'on devrait renoncer à ce plan.
C'est la raison avancée en fait.
Nous pensons que ce n'est pas suffisant parce que lorsque le gouvernement s'est réuni en conseil des ministres extraordinaire en janvier ici, ils ont entre autres pris comme mesure de se baser sur les minerais de l'Est. Or, dans le nouveau projet de loi, il est question, par exemple, des minerais de conflit. Il faudrait qu'on en parle parce qu'il y a l'éligibilité des personnes qui doivent accéder au site minier. Quelle est la valeur qu'on donne à ces minerais? Est-ce qu'ils sont considérés maintenant comme minerais stratégiques ou pas?
Que perd le gouvernement congolais en renonçant à la modification de ses codes miniers?
Ce qu'il perd, tout ce qu'on a eu comme disposition convergente, notamment en rapport avec l'environnement, en rapport avec le développement local, en rapport avec la transparence, en rapport aussi avec la fiscalité dans une certaine mesure, tout ça se sera perdu. Le Premier ministre, qui a déjà reçu la lettre de la société civile, puisse nous répondre rapidement.
Vous ne pensez pas que c'est tard?
On peut dire que c'est tard, mais on revient toujours sur certaines questions.
Dans son rapport publié ce jeudi, l'ONG internationale Global Witness estime que la RDC ne doit pas renoncer à l'amélioration de sa législation minière et à la lutte contre la pauvreté. Pour cette ONG, les 80 millions de Congolais vivant dans une pauvreté extrême en dépit des richesses minières du pays, alors qu'ils souffrent d'une violence cyclique depuis 2 décennies, qui est en partie alimentée par la concurrence autour de la richesse minérale. Au sud Kivu, menace de la sécurité alimentaire, une nouvelle maladie de manioc appelée la strieu brune ravage sérieusement des champs des paysans dans plusieurs territoires de cette province. Les acteurs du domaine agricole annoncent un risque imminent de la baisse de la production à 100% du manioc. C'est jeudi, une rencontre a eu lieu à l'inspection provinciale de la santé pour annoncer l'existence de cette maladie au sud et au nord Kivu et dans le Congo central, de même que dans le Rwanda voisin. Un forum régional vient d'être tenu à Ijui sur la maladie qui détruit tous les tubercules alimentaires et les rend impropres à la consommation. Les directeurs du centre de promotion rurale d'Ijui, basé à Bagaroula, Ephrem Chiribanji, en parlent davantage au micro de Delphine Namuto.
La perte va jusqu'à 100%. Ça va jusqu'à 100%. Pourquoi? Parce que nous avons été dans la plaine de la Ruzizi, précisément à Luvungi, où nous avons trouvé des hectares et des hectares qui sont complètement abandonnés par les paysans. Ça réduit la récolte à zéro. À zéro, donc la perte est évaluée à 100% dans les endroits où la maladie est signalée. Il n'y a plus à récupérer, il n'y a plus à récolter. Donc nous devons faire attention et mettre en quarantaine déjà les zones qui sont infectées.
Et ces zones sont lesquelles?
Les zones, déjà, nous avons dit que déjà dans les territoires d'Ouvira, dans les territoires de Fizi, il y a déjà quelques souches dans les territoires de Walungu et même à Kabare et Kalehe, déjà, on signale déjà la maladie. Et alors, c'est question de faire la cartographie, de signaler déjà les endroits où la maladie est déjà signalée pour qu'on mette ça en quarantaine. Sinon, avec la circulation incontrôlée des boutures, en tout cas, la maladie va atteindre toute la province et cela, c'est un sérieux problème pour la sécurité alimentaire des populations.
Dans le sud d'Ubangi, les autorités de cette nouvelle province font de la réhabilitation du réseau routier de leur entité la priorité des priorités. Elles estiment que sans la remise en état des routes, le sud d'Ubangi ne pourra réussir son développement. Des routes qui sont aujourd'hui à 80% en très mauvais état. Ces plans de développement ont été présentés hier aux membres du comité qui s'occupe de routes et aux opérateurs économiques par les directeurs de cabinet du commissaire spécial du sud d'Ubangi. Éclairage avec Dominique Wolombi.
Les autorités de cette nouvelle province se sont convaincues que le développement du Sud-Ubangi passe par les réseaux routiers. C'est par ces routes que l'économie de cette partie du pays était autrefois prospère. Pour ce faire, il faut réhabiliter les routes de dessert agricole, celles d'intérêt secondaire et les routes nationales. Cette politique du commissariat spécial du Sud-Ubangi a été présentée hier à Gemena au comité provincial qui s'occupe des routes par Martin Gossé, directeur de cabinet du commissaire spécial Robert Koloba. L'amélioration de la circulation sur ces réseaux routiers, a-t-il soutenu, va favoriser l'évacuation des produits agricoles du Sud-Ubangi et l'accès au marché. Mais ces réseaux routiers est à ce jour à peine praticable dans quelques tronçons, ce qui freine les activités des opérateurs économiques et empêche les paysans d'écouler leur production. Concrètement, l'autorité provinciale du Sud-Ubangi entend remettre en état la route Akula-Gemena-Libenge-Zongo, longue de 380 km, qui est l'épine dorsale des routes secondaires. Le commissariat spécial du Sud-Ubangi projette aussi de réhabiliter 2485 km des routes de dessert agricole. La réhabilitation de l'ensemble de ces réseaux routiers pourra relier paysans et opérateurs économiques à cette porte de sortie. sorti que compte cette entité, à savoir les ports d'Akula, des Likimi et des Popolo sur la rivière Mongala, des Mogalo sur la rivière Lua, des Dongo sur le Bangui, des Boudjala sur la rivière Soua et des Kungu sur l'Angbanda. Mis à part les financements du gouvernement et des organismes internationaux, ces travaux devront se faire par cartonnage manuel avec les fonds de rétrocession. Les commissariats spéciaux du sud de Bangui comptent sur l'implication de la population et des opérateurs économiques pour la réussite de ces projets ambitieux. Mbandaka, Dominique Wolombi Mungapange, Écho d'économie.
C'est la fin de ce magazine. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée à tous.